o povo é quem mais ordena. Dentro de ti há cidade.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. Un podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi bien sûr sur le site Spectre, spectremedia.org, un site sur lequel vous pouvez retrouver de nombreux podcasts passionnants. Je vous invite d'ailleurs à soutenir Spectre, un projet militant et un site entièrement gratuit, sans pub, sans financement privé. N'hésitez pas à faire connaître ce projet et ce site, à diffuser les podcasts dans vos réseaux, parmi vos amis, vos camarades ou vos collègues, et si vous le pouvez, à soutenir aussi financièrement ce projet. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir l'historienne Ludivine Mantini, autrice de très nombreux ouvrages, en particulier un livre très marquant sur mai 68, intitulé « Mai 68 de grand soir en petit matin », mais aussi « La France à l'heure du monde » de 1981 à nos jours, ou encore tout récemment « Nous ne sommes rien, soyons toutes », histoire de femmes en lutte et de lutte féministe de la Révolution à nos jours, trois livres parus aux éditions du Seuil. Mais j'ai invité Ludivine dans ce podcast plutôt pour parler de l'extrême droite, notamment parce qu'elle a fait paraître un petit livre en septembre 2024, petit par le nombre de pages, disons, aux éditions du Croquant, intitulé « Battre l'extrême droite ». J'aimerais à la fois qu'on parle ensemble de l'histoire de l'extrême droite, notamment française, mais aussi qu'on aborde la conjoncture politique présente et en particulier ce que peuvent la gauche et les mouvements sociaux face à la résistible ascension du FN devenu RN, Rassemblement National. Évidemment, pour être tout à fait transparent, il faut dire que nous avons publié ensemble en 2021 un court livre d'intervention aux éditions textuelles qui s'intitulait « Face à la menace fasciste, sortir de l'autoritarisme ». Bonjour Ludivine.
Bonjour, bonjour à toutes et tous, bonjour Hugo.
Alors d'abord, peut-être pour commencer cet entretien, j'aimerais que tu reviennes peut-être en historienne sur les origines de l'extrême droite française, ce qui nous amène sans doute à revenir assez loin dans le temps, assez loin de notre situation politique présente, pour se demander finalement d'où vient cette famille politique. Alors, quelques idées sur la famille, d'autres familles politiques, la gauche, les gauches, socialistes, communistes, anarchistes, aussi les familles politiques de la droite, conservatrices, libérales, etc. Quand la famille politique que constitue l'extrême droite est-elle née, dans quelle situation historique et pourquoi peut-être, et en défendant quel type de projet qui la distingue justement des droites?
Alors même si en effet on peut considérer que c'est assez loin de notre présent et de l'actualité extrêmement brûlante, en fait on peut aussi se dire qu'il y a une matrice qui consiste dans cette longue histoire qu'on peut faire remonter à la Révolution française et ses suites, une perspective évidemment réactionnaire mais au sens très violent et systémique du terme, une perspective contre-révolutionnaire qui vise à éradiquer toutes les formes de soulèvement populaire, qui a une haine absolue de tout ce qui a été porté par les mouvements populaires et révolutionnaires, en particulier à partir de 1789, qui a une haine de tout simplement l'idée même de droit, de droit humain, de citoyenneté. Alors on ne va pas l'entendre au sens simplement d'un bulletin de vote, mais de citoyenneté au sens d'une participation active à la vie politique, d'une participation qui est jugée universelle dans une perspective d'égalité, d'équité, de justice sociale et d'émancipation. Donc c'est la haine de cette justice émancipatrice qui anime ce que l'on peut considérer comme l'origine de l'extrême droite, notamment dans les courants qu'on a nommés légitimistes et parfois même ultra-royalistes, disons à partir de la Restauration, c'est-à-dire à partir des années 1814-1815. Alors évidemment, c'est des perspectives contre-révolutionnaires existaient dans la contemporanéité même de la Révolution. Mais elle se structure vraiment lorsque Louis XVIII, puis Charles X, donc en 1814 et puis en 1825, arrivent au pouvoir et essayent justement d'éradiquer toutes les formes d'insurrection populaire qui renoueraient avec l'esprit révolutionnaire. Par des répressions violentes avec des morts dans la rue, par ce qu'on a nommé la terreur blanche dans les années 1820. Par une religiosité qui passe par une sorte de colonisation des esprits et de l'espace public, en particulier les processions, l'idée de deuil généralisé, l'idée aussi qu'il faut refermer la parenthèse historique de la Révolution française, enfin considérée comme telle, considérée comme une parenthèse, et même arracher cette page de l'histoire. Il y a vraiment toute cette métaphore qui est filée par ces souverains de la Restauration et leurs émules et leurs partisans, qui consiste à dire que le tissu de l'histoire a été déchiré par la page révolutionnaire et qu'il faut recoudre ce tissu comme si la Révolution française n'avait pas existé. Donc c'est une sorte d'éloge généralisé à une réaction, mais au sens fort et au sens presque strict du terme, c'est-à-dire un retour en arrière. L'idée, c'est qu'il y a une nostalgie de l'Ancien Régime, une nostalgie d'un ordre social, parce que c'est ça aussi, bien sûr, qui caractérise cette extrême droite, c'est maintenir un ordre social, un ordre idéologique et politique. Donc que cet ordre social passe par une stricte hiérarchisation de la société où le peuple n'a absolument pas sa place politique, n'a aucune légitimité à faire peuple.
D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouvera dans le fascisme de l'entre-deux-guerres, en particulier dans sa variété allemande, puisque une des grandes déclarations assez connues de Goebbels quand les nazis arrivent au pouvoir, c'est « nous allons effacer 1789 de l'histoire ».
Absolument. C'est vrai que c'est évidemment une source d'inspiration pour Goebbels que ces mouvements ultra-royalistes, réactionnaires et violents. Finalement, le projet est le même. C'est un projet qu'on pourrait qualifier de holiste, avec un H. Donc, holiste, ça signifie en fait que la société est considérée comme une espèce de tout organique où les individus ne sont absolument pas des sujets agissants, des sujets actifs de l'histoire. L'histoire, elle se mène par une espèce de puissance métaphysique, millénariste, et c'est aussi un autre point commun entre l'idéologie néo-royaliste réactionnaire et le fascisme et le nazisme tel que tu viens de le mentionner avec Goebbels, c'est cette idée que en fait seul le chef mène l'histoire avec aussi une sorte de puissance métaphysique. Alors la différence c'est l'incarnation même de cette puissance métaphysique. D'un côté, du côté de l'ultra-royalisme, c'est Dieu en fait, le Dieu des catholiques les plus intégristes et les plus réactionnaires, et du côté du paganisme nazi, c'est une sorte d'esprit de la race, voilà. Mais dans les deux cas, il y a précisément une très très puissante hiérarchisation de la société et l'idée que les individus n'ont aucune place, encore une fois, pour faire politique.
Et un projet qu'on appelle parfois organiciste, au sens où la société serait un corps, avec donc chacun a une place dans ce corps, est un organe en quelque sorte de ce corps. Et à moins de vouloir déstabiliser fondamentalement ce corps social, eh bien il faut que chacun reste à sa place. Quoi. Bon, il y a un projet qui est foncièrement et fondamentalement inégalitaire, pas simplement dans le constat qu'il y a des inégalités produites par le marché du travail, mais sur la nécessité même de ces inégalités, ce qui en par ailleurs renvoie au caractère, là on s'avance un peu dans le temps, 19e et 20e siècle, mais vers le caractère darwiniste social, ou enfin du social-darwinisme de ces courants pour lesquels, en gros, il y a une lutte pour la vie et les gagnants sont là où ils sont et là où ils méritent d'être, en quelque sorte. Et on voit par ailleurs aussi des convergences avec, pour le coup, les courants de droite.
Absolument. Et donc, l'idée que la puissance doit être concentrée entre les mains d'un petit groupe complètement oligarchique et que cette puissance doit s'imposer par la force, par la violence, par l'autoritarisme. Et ça se marque évidemment avec des accélérations lorsque les niveaux d'organisation du mouvement ouvrier commencent à atteindre un certain niveau de puissance, justement. Donc, tout au long de la deuxième moitié du 19e siècle, avec une structuration de cette extrême droite et qui va encore mieux s'organiser à la fin du 19e siècle avec la constitution de ligues, dont l'Action française, qui va reprendre le projet néo-royaliste, donc anti-républicain, avec tous ses tenants racistes, xénophobes, antisémites, enfin d'un antisémitisme vraiment virulent. C'est pour ça que lorsque l'on voit que Emmanuel Macron a tendu à considérer qu'on pouvait rendre hommage à Maurras comme l'une des figures intellectuelles de la France dans une espèce de grande réconciliation nationale, ben on ne peut que être outré et même pétri de rage parce que en fait Maurras c'est vraiment l'ignominie à l'état pur dans le niveau de racisme et d'antisémitisme abject qu'il déploie. Donc les ligues qui se constituent telle l'Action française en 1899 au cœur de l'affaire Dreyfus, hein, c'est vraiment l'idée de se structurer contre les Dreyfusards, mais aussi en fait contre une certaine forme de régime, le régime républicain, ça c'est clair, et aussi essayer de contrer l'importance du mouvement ouvrier, encore une fois, structuré, avec des organisations qui se mettent en place. Parce que, évidemment, cette extrême droite, elle s'oppose à toute force à la lutte de classe. Donc ça, c'est le point commun qui traverse toute notre histoire. C'est une opposition systématique à toute perspective de lutte de classe émancipatrice, de constitution d'un mouvement ouvrier. Donc il s'agit vraiment aussi de tenter, par des voies populistes, en fait, de tenter de s'adresser à une partie des classes populaires, même des classes ouvrières, pour les extirper de la constitution d'un mouvement ouvrier organisé.
Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a cette première souche, donc plutôt ancrée dans la contre-révolution monarchique, ultra, royaliste, etc., qui court jusqu'à l'Action française, et peut-être une deuxième souche, ou est-ce que, enfin, à toi de nous dire, qui est née davantage à la fin du XIXe siècle, dans des cercles, enfin, notamment dans le cas du boulangisme, dans le sillage de ce général Boulanger, de côté de gens qui ne viennent pas de ces milieux ultra, mais qui viennent plutôt de milieux républicains. Petite partie d'entre eux, je crois, sont issus même de la Commune de Paris, ou ont pu être des communards. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est avec plusieurs ciments, mais notamment avec le ciment que constitue l'antisémitisme, puisque ces milieux vont se coaliser par ailleurs dans le cadre de l'affaire Dreyfus.
Oui, dans les années 1880, en fait, cette république troisième du nom qui se constitue crée beaucoup de déceptions, beaucoup de désillusions, notamment parce que finalement, rien n'est modifié dans les rapports sociaux en général, dans les rapports de production en particulier, qu'il y a toujours une concentration très forte des richesses au sein d'une oligarchie capitaliste. Il y a un certain nombre de scandales aussi financiers, de pots de vin, d'escroqueries, donc un énorme scandale autour de la construction du canal de Panama, donc une sorte de vaste escroquerie au délit d'initié. Et donc, le sentiment que cette République, au fond, elle trahit ses perspectives de justice sociale. Et donc, le général Boulanger, qui au départ est ministre de la guerre, donc purement intégré aux institutions de cette Troisième République, va concentrer de plus en plus de popularité. Il y a déjà un phénomène médiatique assez frappant à l'époque, et qui va d'ailleurs au-delà des médias, mais par toutes sortes d'usages d'objets de masse dans une industrie de masse, où on va voir des assiettes, des pots, des verres à l'effigie du général Boulanger. Et qu'est-ce qui va cristalliser ? C'est justement un grand mécontentement social qu'il va essayer de traduire par une forme d'autoritarisme, justement. Et donc l'idée que que face à cette république corrompue, fondée essentiellement sur un régime parlementaire, qui est nommé de plus en plus parlementariste, où justement les élus de la Chambre des députés sont dénigrés, disqualifiés, délégitimés, il faut un pouvoir fort qui porte vraiment un projet populaire. Donc lorsque justement une partie de la gauche républicaine va s'écarter du général Boulanger et essayer de faire la démonstration de cet autoritarisme et du risque d'un coup d'État anti-républicain, il va de plus en plus s'éloigner de cette République, même si en réalité, il n'aura que des velléités et des discours un peu rhétoriques contre le parlementarisme républicain, et jamais il ne tentera véritablement de coup d'État. Mais en tout cas, il a rassemblé autour de lui des masses importantes. Alors, tu as raison de souligner qu'il y a une partie de ces partisans qui viennent même de certains courants de la gauche, y compris d'anciens protagonistes de la Commune de Paris. Bon, il n'empêche que d'un point de vue matérialiste et sociologique, la base sociale du boulangisme, ce sont essentiellement les petites classes moyennes qui se considèrent comme déclassées, donc les petits commerçants, les artisans qui vont former vraiment le public phare et cible du boulangisme.
Oui, par ailleurs, qui sont menacés par le développement du capitalisme, les grands magasins pour les petits commerçants ou la grande industrie pour les artisans.
Oui, tout à fait. Donc, une logique très compétitive, très concurrentielle, qui leur donne le sentiment d'être écrasés, justement, par ces gros, par ces grands, notamment ces grands capitalistes.
Mais on voit, par ailleurs, comment l'extrême droite, et j'ai l'impression que c'est vrai aussi bien à la fin du XIXe siècle ou début du XXe, que dans l'entre-deux-guerres ou dans les années 60, 70, 80, et encore aujourd'hui dans les pays où émerge une extrême droite, par exemple au Portugal ces dernières années, c'est que l'extrême droite, quand elle se coalise, notamment sous la forme de parti, est presque toujours, enfin mêlent toujours des milieux qui sont politiquement hétérogènes au sens où ils ont des origines idéologiques et politiques différentes. Ici, on trouve des milieux qui viennent de courants d'extrême gauche, mais aussi de courants monarchistes, de courants républicains, de courants bonapartistes. Et ça ne dit rien par ailleurs du type de projet qu'ils défendent, puisque ces anciens militants de gauche abandonnent totalement les idéaux et les projets de gauche. Ce sera aussi le cas de Mussolini, qui était un dirigeant de l'aile gauche du mouvement socialiste italien. Mais en gros, comment l'extrême droite va puiser dans différents matériaux humains, politiques, idéologiques, culturels, et construire un projet spécifique autour, notamment, alors Zev Sternel, grand historien du fascisme, insistera sur le fait que justement il y a une sorte de synthèse fasciste qui est constituée notamment d'une droite nationale qui cherche à se rendre populaire, tu le disais tout à l'heure, à s'adresser aux classes populaires au sens large, y compris à des franges de la classe ouvrière, peut-être les moins organisées, les moins marquées par le mouvement ouvrier, les mouvements socialistes, communistes, anarchistes, etc. Et puis une gauche qui rompt en réalité avec notamment le matérialisme, avec notamment le marxisme, qui rompt du côté d'une politique autoritaire, d'une politique spiritualiste aussi, où en gros ce qu'il faudrait c'est revitaliser ou régénérer en quelque sorte la nation, mais pas véritablement à travers ce que proposent les marxistes, c'est-à-dire une socialisation de la production, partage des richesses, etc. En gros c'est plus tellement ça l'enjeu, et donc ils vont pouvoir trouver des terrains d'entente avec ces courants davantage issus de la droite et qui, par ailleurs, en général, dominent dans les mouvements fascistes.
Oui, c'est vrai que l'originalité de cette extrême droite, c'est d'opérer une espèce de syncrétisme, de synthèse, comme tu le disais, syncrétisme au sens d'un creuset, y compris sur les questions de spiritualité que tu évoquais. Par exemple, Charles Maurras, donc, qui est le grand penseur de cette extrême droite anti-républicaine, racialiste et antisémite, est lui-même agnostique du point de vue spirituel, donc, mais ça n'empêche pas qu'il fasse fond sur justement le catholicisme intégral d'une partie des membres de l'Action française, et donc en considérant par exemple que même si lui-même est agnostique, c'est-à-dire que voilà, il n'est pas athée, mais il n'est pas non plus croyant, donc il réserve son jugement quant à l'existence de Dieu, mais ça il le met jamais en avant parce que il met en avant l'importance justement des rois, y compris qui sont rois par la grâce de Dieu, donc il va attirer en fait une partie de ceux qui sont nostalgiques de l'Ancien Régime et de cette idée que les rois de France l'ont été de droit divin. Et puis d'un autre côté, il va y avoir aussi une espèce de synthèse avec des formes paganistes ou néo-païennes comme on va le voir aussi dans les années 30. Et c'est le cas aussi en effet du fascisme. Par exemple, tu citais Mussolini et ses origines politiques socialistes et marxistes. Lui-même, bien sûr, est athée, mais il va se servir et s'appuyer sur l'Église catholique italienne, extrêmement puissante, évidemment, en son temps, comme encore dans une certaine mesure aujourd'hui, et donc faire fi, justement, de ces divergences spirituelles pour mieux organiser ce creuset autour de l'homme fort, de l'autoritarisme et de la puissance qu'on pourrait nommer aujourd'hui suprémaciste, en fait. Suprémaciste par le suprémacisme de la race ou de la nation, ce qu'on a appelé le nationalisme intégral, justement, qui est un nationalisme violent, un nationalisme de haine de tout ce qui peut représenter une forme d'altérité à l'intérieur ou à l'extérieur de cette nation.
Oui, un nationalisme de type purificateur. C'est pour que la nation renaisse.
Il faut qu'elle se débarrasse de ses corps étrangers, comme on disait tout à l'heure quand tu rappelais cette dimension organiciste ou holiste de la société comme un corps qui doit se débarrasser de ses corps supposément étrangers.
Alors, il y a eu parmi les historiens, en particulier français, une controverse autour du fascisme français, de l'existence ou non d'un fascisme spécifiquement français, en particulier autour du travail de Zev Sternel. Pour rappel, il avait, dans des travaux d'abord sur Maurice Barrès, et puis ensuite en étendant sa focale un peu plus largement, il avait défendu l'idée que les origines, notamment intellectuelles du fascisme, ou idéologiques si on veut au sens un peu plus large, du fascisme, devaient se trouver non pas en Italie, où généralement on considère qu'est né le fascisme, sous la forme d'un mouvement politique, mais qu'on doit les trouver, ces racines du fascisme, dans la France de la fin du XIXe siècle, notamment dans le cadre, enfin dans le sillage du mouvement boulangiste, autour de l'affaire Dreyfus, etc. Et que c'est là que s'opère en quelque sorte cette synthèse d'abord intellectuelle, notamment chez quelqu'un comme Barrès, comme l'écrivain Maurice Barrès. Bon voilà, donc ça a suscité une très grande controverse, et notamment certains historiens assez centraux dans le champ des historiens du politique et des historiens contemporains, notamment Serge Bernstein, avaient défendu l'idée d'une allergie française au fascisme. Est-ce que tu peux revenir sur cette controverse pour toi? Enfin, cette controverse est déjà ancienne, hein, c'est une controverse qui est presque 40 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'elle nous révèle? Qu'est-ce que toi, tu mettrais en avant là-dessus? Est-ce que ça participe d'une sorte de refoulement d'une partie de l'histoire française? On pourrait parler du refoulement, évidemment, de l'histoire coloniale, mais ici, d'une vieille histoire de l'extrême droite française ancrée profondément dans ce pays. Comment toi, tu interprètes cette controverse comme ça à 40 ans de distance?
Déjà, même si c'est un argument qui apparaît un peu secondaire et pas du tout essentiel pour le fond politique et stratégique de notre discussion, il y a des effets de distinction dans le champ historiographique quand même. Il me semble que un certain nombre d'historiens, alors les historiens d'une certaine école, hein, disons une histoire un peu culturaliste du politique, une histoire qui est très peu matérialiste justement, qui est une histoire très peu sociale, hein, autour de Serge Bergstein, René Raymond, donc toute cette école-là a été piquée au vif, en fait, qu'un historien comme Zev Sternel vienne mettre son grain de sel dans cette historiographie et accuser, en quelque sorte, l'histoire française d'être à la racine des processus de fascisation. Mais fondamentalement, oui, je pense que c'est aussi, du point de vue de cette historiographie, une sorte de tabou. Et ça, je le vois vraiment beaucoup en étudiant de plus en plus les années 30 et la période aussi du Front populaire, donc un relativisme généralisé qui a consisté à dire que voilà, là, de toute façon, tout ça n'était que phénomène marginal du côté, par exemple, des ligues clairement fascistes, ou de considérer que l'antidreyfusisme organisé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle n'avait rien de commun justement avec les processus de fascisation. Alors qu'en fait, il me semble que l'analyse de Zev Sternel est particulièrement pertinente parce que c'est vraiment en France que se trouve le berceau justement d'une organisation extrêmement structurée, de masse en fait, avec les ligues qui sont particulièrement violentes, qui ne se contentent pas d'un discours, d'une rhétorique racialiste, mais qui organisent des combats de rue, très clairement, et à partir des années... d'après la Première Guerre mondiale des années 20, tourne ces combats de rue contre le mouvement ouvrier, contre les grèves, contre les syndicats, en somme contre les rouges, présente ces rouges comme des gens au couteau entre les dents. Donc il y a vraiment aussi une perspective de réaction face au mouvement ouvrier. Et donc il me semble en effet que Sternel a raison de souligner l'importance de la structuration française de ces ligues qui va se retrouver avec énormément de puissance. Dans les années 30, le Parti social français issu des Croix de Feu, donc du colonel de la Roque, c'est quelque 1 million d'adhérents. Alors bien sûr, adhérent ne veut pas dire militant, justement, qui va faire le coup de poing dans les rues, mais il y a une organisation vraiment très très puissante. Et puis bien sûr, tous ces courants qui se réclament très clairement du fascisme, du nazisme, autour de Doriot, autour de Déa. Voilà, donc des ligues ou celle de Deloncle, par exemple, qui ne vont pas hésiter à tenter justement des attentats, une forme de terrorisme d'extrême droite à la fin des années 30.
Et c'est intéressant de noter par ailleurs qu'il a fallu donc Sternel pour secouer, disons, qu'on soit absolument d'accord avec tout ce qu'il a pu dire, mais secouer un peu le cocotier du consensus un peu mou autour du fascisme français, qui consistait par exemple à dire oui, ok, les Croix de Feu, c'était une organisation de masse, mais c'était pas vraiment des fascistes. Et même, ils n'avaient pas grand-chose à voir, voire ils n'avaient rien à voir avec les différentes variétés de fascisme, ce qui est quand même, ce qui a été beaucoup contesté par d'autres historiens, notamment états-uniens, ou de dire finalement le parti de Doriot qui quand même a compté plusieurs centaines de milliers de membres.
Le Parti populaire français.
Le PPF, le Parti populaire français, y compris des membres éminents ou des écrivains assez prestigieux comme Drieux-La Rochelle, etc. Mais de nier l'importance de ce type de courant. Mais il y a une autre controverse qui avait eu lieu un peu plus tôt autour du régime de Vichy et du péténisme. Et là encore, c'est un historien non français, un historien états-unien, Robert Paxton, qui là aussi avait secoué un peu le consensus qui s'était établi dans les années 50-60. Et qui a permis en quelque sorte de mieux caractériser le régime de Vichy dans peut-être ce que un historien avait appelé le champ magnétique des fascismes. On peut discuter du caractère fasciste à proprement parler du régime de Vichy, mais en tout cas, il est assez incontestable, comme pour le salazarisme ou le franquisme, qui se situe dans ce champ magnétique des fascismes qui s'est constitué dans l'entre-deux-guerres.
Bien sûr, et donc ce qu'on a nommé d'un point de vue historiographique la révolution paxtonienne consistait à montrer que le régime de Vichy avait anticipé bien des demandes de l'Allemagne nazie et avait mis en place sa propre politique de manière relativement autonome des exigences de l'occupant nazi, notamment en matière d'antisémitisme d'État, donc une politique antisémite discriminatoire, violente et in fine de complicité génocidaire que Vichy a mis en place de manière relativement indépendante dans les premiers mois de la collaboration, sans que l'Allemagne nazie soit exigeante à son égard. Et ça a été le cas, alors, par exemple, dans les figures qui font le pont entre les années 30 et l'occupation, c'est le cas de Pierre Laval, qui a été l'un des dirigeants principaux du régime de Vichy, qui n'hésite pas à... y compris aller à l'encontre des demandes nazies sur les questions de déportation des enfants juifs, puisque c'est lui qui va encourager à la déportation de ces enfants, ce que ne demandaient pas les nazis.
Alors, je propose qu'on fasse un saut dans le temps pour arriver aux années 80. On sait qu'après la Seconde Guerre mondiale, les extrêmes droites en Europe vont se trouver largement, pas dans tous les pays, hein, mais vont se trouver largement délégitimées. Je ne dis pas dans tous les pays, puisque assez vite, par exemple, en Italie, renaît une organisation assez forte, le mouvement social italien. Qu'en Autriche, les anciens nazis vont fonder le FPE, qui est aujourd'hui là, une organisation de masse en Autriche et qui a de très bons résultats électoraux. Mais bon, les extrêmes droites vont être très affaiblies par la défaite du nazifascisme en 1945 et par la délégitimation liée notamment au génocide des Juifs d'Europe. Mais on arrive dans les années 80 et c'est le moment de renaissance à une échelle de masse, disons, et notamment sur le terrain électoral de l'extrême droite en France sous la forme du Front National, d'abord dans des élections locales, notamment à Dreux en 1982, si je ne me trompe pas, et ensuite au niveau national aux élections européennes en 1984. Est-ce que toi, tu as travaillé sur justement cette période-là en historienne, qui est un peu une histoire du temps présent d'une certaine manière, parce que on entre vraiment plus dans une actualité politique pour nous, qui est le début des politiques néolibérales, donc dans les années, fin des années 70, début des années 80, et qui est un peu le monde dans lequel nous sommes et dont nous sommes les héritiers et les produits. Tu as travaillé spécifiquement là-dessus. Est-ce que tu peux revenir sur ce moment spécifique que sont le début des années 80, l'arrivée au pouvoir des socialistes, d'ailleurs dans une coalition avec les communistes et les radicaux de gauche? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qui nous permet de comprendre cette poussée de l'extrême droite électorale, donc à des élections locales et ensuite nationales. Et puis en 86, les législatives vont avoir un assez gros groupe parlementaire et le premier succès aux élections présidentielles de 88. Mais là, on a un moment quand même vraiment fondateur pour la renaissance de l'extrême droite dans ce pays.
Oui, de toute façon, les années 80 constituent un moment fondateur à bien des égards, et notamment dans une perspective qu'on pourrait nommer réactionnaire. Enfin, pour moi, les années 80 c'est pas les années avec leurs petits bras musclés, hein, mais disons que les protagonistes économiques et politiques au cours de cette période vont mettre en place une perspective de réaction, au sens d'une réaction à la période qui a précédé, qui était marquée par, dans les années 68, 70, des grandes luttes, des grands mouvements sociaux vraiment gigantesques, comme ça a été le cas bien sûr avec mai 68, mais de manière générale, un esprit critique, un esprit contestataire et de rébellion et de très puissante organisation. Et ça s'explique, toi comme moi, je pense qu'on en a un peu la même analyse en matérialiste, en marxiste, par une difficulté du capitalisme pour ce qui concerne le renouvellement de son taux de profit. Voilà, il y a une difficulté économique réelle qui fait que le capitalisme va avoir besoin de se structurer autrement. On sait ce qu'on a nommé la phase néolibérale du capitalisme. C'est une phase extrêmement offensive et que la gauche au pouvoir va épouser très très rapidement. En fait, hein. Souvent, on parle du tournant de 1983, le tournant de la rigueur, mais en réalité, c'est dès l'automne 1981 que se met en place un changement très clair de politique, l'abandon d'un néo-keynésianisme un peu classique, un peu traditionnel. D'ailleurs, les toutes premières mesures date de l'été 81, enfin juste après l'élection de mai 1981. À ce moment-là, François Mitterrand dialogue avec Jacques Delors, qui va être l'une des figures de ce changement radical de politique par rapport aux promesses électorales. Et Mitterrand dit, en effet, quand Jacques Delors lui dit, de toute façon, ce programme-là de relance néo-keynésienne, en fait, il n'est pas tenable, étant donné les rapports de force mondiaux. Donc Jacques Delors est déjà dans une perspective justement très très libéral lui-même. Et Mitterrand lui répond oui, bon, bah, pour l'instant, je fais de la politique. C'est-à-dire, voilà, essayer de mettre en évidence quelques mesures, notamment voilà, sur les hausses de salaire. La cinquième semaine de congés payés, la hausse des minima sociaux, des pensions, etc. Mais très vite, cette politique va changer complètement et radicalement de braquet. Et donc, faut même pas attendre 1983 pour en prendre la mesure. C'est très clair dès la fin 81 et 1982. Et c'est aussi le moment où, y compris le Parti socialiste, va considérer parmi ses dirigeants que faire monter médiatiquement Jean-Marie Le Pen, qui n'avait même pas pu se présenter à l'élection présidentielle de 1981, alors qu'il s'était présenté à celle de 1974. En fait, en 1981, c'est vraiment un petit groupuscule, le Front National fondé en 1972. Et donc, Jean-Marie Le Pen n'arrive pas à rassembler suffisamment de parrainage pour se présenter à l'élection de 1981. Et une certaine petite musique médiatique va changer, justement, à compter de ces années-là, 82, 83, avec notamment l'élection municipale à Dreux. Donc, en fait, une sorte d'installation, d'ancrage et de légitimation, voire de respectabilisation médiatique de Jean-Marie Le Pen lui-même, qui, à l'époque, se présente justement complètement dans le courant néolibéral offensif du capitalisme en ce début des années 80, puisqu'il il professe une grande admiration pour Reagan, il dit qu'il veut être le Reagan français. Donc,
Ronald Reagan, oui, c'est le président états-unien élu en 1980, qui, disons, Thatcher avait déjà commencé en étant élu en 79 en Grande-Bretagne, mais en gros, qui met en place des politiques néolibérales beaucoup plus offensives et qui rompt en quelque sorte avec un consensus de compromis social et d'amélioration lente des conditions de vie de la majorité de la population, disons qu'avait été un peu le consensus au sein des classes dominantes dans les années 50, 60, 70, y compris à droite, hein, une partie du gaullisme par exemple. On vous donne ça, mais vous, en gros, vous acceptez de travailler dur, etc. Bon. Et en gros, il y a une rupture au début des années 80, donc avec Reagan notamment et Thatcher, et Jean-Marie Le Pen se prétend le Reagan français à ce moment-là.
Oui, il se revendique absolument de cette politique néolibérale qui favorise les plus riches, qui entend remettre en cause justement un certain nombre de conquêtes sociales.
Très antisyndical aussi.
Très antisyndical, absolument. Bon. Et en même temps, il y a cette offensive médiatique qui va se traduire par des formes de, voilà, encore une fois, de respectabilisation. Par exemple, lors d'une émission qui était très populaire, une émission de télévision qui s'appelle L'Heure de Vérité. Je pense notamment à l'émission de février 1984, où justement, appuyée en cela par le soutien direct de François Mitterrand, c'est Jean-Marie Le Pen qui est invité en majesté. Et d'un autre côté, à ce moment-là aussi, Laurent Fabius, donc premier ministre de François Mitterrand, qui a succédé à Pierre Mauroy, va justement légitimer aussi le Front National en disant que Jean-Marie Le Pen et le Front National posent les bonnes questions, mais n'apportent pas nécessairement les bonnes réponses. Mais voilà, c'est aussi une forme de légitimation. Et ce qu'on a pu voir a posteriori par toutes sortes de sources et d'archives, c'est que justement, il s'agissait de plus en plus, et avec une accélération à partir de 1985, à la fin de la législature, quand cette gauche au pouvoir tellement décevante et tellement brutale justement dans la politique antisociale qui est menée à bien des égards, va se dire qu'il faut limiter la casse, limiter les dégâts aux élections législatives de 1986 et contribuer à favoriser justement la montée du Front National pour pouvoir contrer le triomphe qui s'avère évident de la droite dite républicaine, de la droite plus classique. Et donc c'est comme ça que justement, alors avec l'introduction de la proportionnelle aussi aux élections législatives de 1986, bon, qui était au programme de François Mitterrand pour 1980, donc dans une certaine mesure il a eu beau jeu de dire qu'il tenait ses promesses électorales, au moins celle-ci, mais voilà, c'est sûr que ça a favorisé la présence de ces 35 députés du Front National lors de l'élection législative de 1986.
Oui, c'est intéressant de voir qu'effectivement, aussi bien la droite que le PS dans les années 80, notamment sur les questions d'immigration, vont aller sur le terrain de manière assez systématique de l'extrême droite. Sans doute qu'on peut l'interpréter très basiquement par le fait que si on regarde les sondages sortis des urnes en 86 ou 88, et quand on demande aux électeurs du FN pour qui ils avaient voté en 81, il y a presque, je crois, deux tiers des électeurs du Front National qui avaient voté pour la droite, soit pour Giscard d'Estaing, soit pour Chirac. Donc c'est bien quand même essentiellement des électeurs de droite qui se sont déportés à l'extrême droite, qui se sont déplacés à l'extrême droite, qui se sont radicalisés d'une certaine manière. Et par ailleurs, près 25 à 30% de, il me semble, d'électeurs qui avaient voté François Mitterrand au premier tour en 81. Et donc aussi, ces deux partis perdent des électeurs ou électrices au profit de l'extrême droite et sont tentés en quelque sorte de se dire on va regagner ces électeurs en leur donnant ce qu'ils veulent, c'est-à-dire des discours xénophobes, racistes contre les immigrés, en disant par exemple comme Mitterrand, le seuil de tolérance en matière d'immigration a été atteint depuis très longtemps, ou comme Michel Rocard, qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et par ailleurs, avec des pratiques gouvernementales qui sont associées à ça. C'est-à-dire qu'à partir notamment de la fin des années 80, le gouvernement Rocard expulse assez massivement des immigrés sans papier.
Cette politique, comme tu le dis, avec cette espèce de racialisation, ethnicisation du discours politique, notamment en matière de lutte sociale, commence dès le début des années 80, puisqu'on le sait, lors des grandes grèves des OS, des ouvriers spécialisés dans l'industrie automobile, notamment à Talbot, il y a vraiment tout un discours pris par Pierre Mauroy, ou le ministre de l'Intérieur Gaston Defferre, pour dire que tout ça c'est de la manipulation liée à l'Iran, des musulmans, les chiites, des grèves chiites. Donc une manière de discréditer justement ces mobilisations très impressionnantes, très déterminées, à un moment où justement il y a déjà les premières contestations à l'égard de la politique économique du Parti Socialiste au pouvoir qui se manifeste avec ténacité dans ces grèves-là.
Oui, c'est d'ailleurs là vraiment que sont tenus les premiers discours proprement islamophobes. C'est-à-dire on pointe du doigt des traditions qui ne seraient pas françaises. C'est les mots qui sont y compris employés. Il y a trois ministres, et dont pas les moindres, hein, Mauroy, Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, et aussi Auroux, ministre du Travail, qui emploient des rhétoriques qui sont très clairement islamophobe dès ce moment-là, du début des années 80, des grèves de 82 notamment, rhétorique qui va ensuite être évidemment démultipliée dans les années 2000-2010. Alors justement, si on se déplace là encore dans le temps, si on peut en venir à un deuxième moment de développement de l'extrême droite, puisque finalement l'extrême droite va atteindre assez vite son niveau autour de 15%, c'est-à-dire dès à peu près 88, et puis se maintenir à peu près à ce niveau, disons entre 15 et 20% assez longtemps, y compris avec une régression en 2007, la dernière élection présidentielle de Jean-Marie Le Pen où il fait un score vraiment en deçà de ses résultats précédents. Et puis, il y a l'arrivée à la tête du Front National de Marine Le Pen en 2011 au congrès de Tours. Et là, un nouveau moment de progression important pour le Front National qui passe, qui brise en quelque sorte le plafond de verre qu'on imaginait éternel en quelque sorte. Ils n'iront jamais au-dessus de 15-20%. Et puis là, ils atteignent des scores, notamment certaines élections régionales, européennes, de 25%. Et puis Marine Le Pen va faire 34% en 2017 au second tour. Et puis ensuite 41,5% en 2022. Donc qu'est-ce qui se passe selon toi dans ces années 2010 qui permet de comprendre ce nouveau développement de l'extrême droite bien au-delà des 15% qui étaient déjà des scores très importants au regard de ce qu'on pouvait imaginer dans les années 60-70. Le plus jamais ça, c'était ces forces n'arriveront plus jamais à se développer parce que finalement on sait ce que ça donne quand ils arrivent au pouvoir. Ça donne la guerre et ça donne des formes de génocide. Donc voilà, dans les années 80, ils renaissent et dans les années 2010, ils progressent jusqu'à être aujourd'hui aux portes du pouvoir.
Oui, à compter déjà des années 1990, il y a un changement non seulement de discours, mais de projet, en tout cas de manière assez superficielle, mais médiatiquement correct, justement, pour le Front National. C'est-à-dire, après ces années 80 très néolibérales, de Jean-Marie Le Pen, Reagan français, il y a aussi une adaptation, une sorte d'ajustement à ce nouvel électorat déçu de la gauche, comme tu le soulignais tout à l'heure. Et donc, un projet qui va se vouloir plus social. Et donc, à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure sur des attaques frontales, si on peut dire, contre les acquis sociaux, ils vont se mettre à défendre le SMIC, notamment l'augmentation des salaires, tout en restant évidemment très opposés à toute forme de lutte de classe, hein, donc toute forme de constitution du mouvement de la classe en tant que tel par des syndicats qui restent vraiment leurs ennemis proclamés. Hein. Ils n'hésitent pas à le dire jusqu'à aujourd'hui, il y a encore eu des déclarations récemment de Louis Alliot pour dire que voilà, les syndicats sont les fossoyeurs de l'économie française. Bon. Mais il y a ce discours social qui va d'ailleurs mener à ce que, encore ces derniers jours, Bruno Retailleau dise que le Rassemblement National serait assez à gauche, pour reprendre cette expression. Alors c'est évidemment de l'escroquerie.
Il joue petit bras parce que Bruno Le Maire avait dit que le FN avait un programme marxiste.
Marxiste, oui, absolument. Donc en fait, bon, alors bien sûr que c'est aussi c'est une escroquerie monumentale, et ça on peut en faire la démonstration très très rigoureuse, hein, parce que le Front National comme le Rassemblement National aujourd'hui, on peut y revenir précisément, est en fait une organisation qui vise à favoriser déjà les plus riches et une force qui favorise la loi du marché, la loi du capital. Ça c'est extrêmement clair, et qui est en porte-à-faux complet justement avec cette partie de l'électorat qui rejoint le Rassemblement National en imaginant que certaines choses vont pouvoir changer sur le plan social et économique, qui très clairement se prononce pour cet électorat qui est favorable à plus de 80% ou 90% à des mesures de frein à la toute-puissance des plus riches, comme par exemple le blocage des prix des produits de première nécessité, l'indexation des salaires sur les prix, le rétablissement de l'impôt sur la fortune, autant de mesures auxquelles s'oppose le Rassemblement National. Donc il est clair que c'est une escroquerie, mais il s'agit aussi de présenter, du point de vue du FNRN, ce projet comme étant un projet populaire. Donc très rapidement, justement, dans les années 90, évidemment jusqu'à aujourd'hui, mais c'est déjà le cas de Jean-Marie Le Pen dans les années 90, c'est à dire que, bon, évidemment, ce n'est pas l'extrême droite, ils ne vont jamais vouloir évidemment s'auto-désigner comme extrême droite, et même pas de droite. C'est à dire que Jean-Marie Le Pen va dire mais non, mais c'est ni gauche ni droite, français, etc. Voilà, c'est toujours cette idée de nationalisme intégral qui ne pose pas sur lui-même une étiquette, et a fortiori une étiquette de droite. Ce qui diffère des années 80. Donc une forme de respectabilisation, et puis un besoin de plus en plus d'avoir justement une extrême droite forte, y compris pour contrer la gauche. Donc essayer de présenter cette extrême droite comme ayant un programme social, et donc favorisant les classes populaires, et donc légitimant parfaitement l'idée qu'il faut inviter ces gens dans les médias, puisque en fait ils sont parfaitement populaire, et donc c'est un raisonnement qui est circulaire, puisque cette machine médiatique ne cesse d'inviter le RN et donc de le légitimer et de le rendre populaire. Mais il me semble qu'une des raisons principales, c'est justement que cette légitimation permet de contrer un véritable programme de lutte de classe, un programme véritablement émancipateur, de justice sociale, etc. Donc ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans une période absolument orwellienne, où, comme tu le disais à propos de Bruno Le Maire qui dit que le RN a un programme marxiste, tout est fait pour considérer, avec des propos qu'on voit se démultiplier, pour considérer que les fascistes, c'est une partie de la gauche. En l'occurrence, c'est toujours LFI qui en est la cible. Voilà, donc Bernard-Henri Lévy qui répète partout que LFI, ce sont les fascistes, que la véritable extrême droite, c'est LFI. Un Boris Cyrulnik qui sort que LFI, c'est le représentant aujourd'hui du fascisme. Enfin, tout est fait justement pour assimiler cette partie de la gauche assez déterminée dans une perspective qui est de plus en plus anticapitaliste, l'assimiler vraiment à la fascisation.
Il y a un point qu'on pourrait peut-être développer qui est autour du rôle de l'État dans le projet de l'extrême droite. On a parlé un peu de son programme social, ou en réalité de l'absence pour une bonne partie du programme social. Alors, il faudrait peut-être compliquer la chose en disant que, d'une certaine manière, son programme social, pour l'essentiel, c'est l'idée de préférence nationale, et en réalité, même derrière, de préférence raciale. On va prendre à certains... Enfin, l'idée d'un peu d'une redistribution horizontale. On ne va pas prendre aux riches pour donner aux pauvres, on va prendre à certains segments du salariat, de la classe travailleuse, pour donner à d'autres segments. On va améliorer vos situations en prenant à d'autres qui ont des avantages indus. Mais c'est toujours assez vague et confus, d'ailleurs. Les étrangers, les réfugiés, peut-être les binationaux, les minorités en général, les assistés qui, par ailleurs, souvent, ne devraient pas être tout simplement assistés parce qu'ils ne sont pas d'ici, etc. Bon. Mais donc, il y a un programme social, en quelque sorte, du RN, mais qui est en réalité un programme xénophobe et raciste. Et c'est, en quelque sorte, on a beaucoup crédité l'extrême droite d'avoir remis au centre les questions de pouvoir d'achat. En réalité, ce qu'elle a remis au centre, c'est une manière de penser la question sociale à partir de critères ethno-raciaux, en réalité, et de la question du clivage, enfin, ou de penser la question sociale et du pouvoir d'achat à partir du clivage national-étranger plutôt qu'à travers un clivage bourgeoisie, classe ouvrière, ou oui. Riche, pauvre, ceux d'en haut, ceux d'en bas.
Non, c'est vrai, mais même dit comme ça, ça me paraît pas tout à fait juste, parce que en réalité, quand on examine et leur projet et leur vote concrètement, en termes de supposée politique sociale, en fait, toutes leurs réactions sont antisociales. Et d'ailleurs, ça a pu être démontré, si leur programme était appliqué, Il y aurait un enrichissement de 10% les plus riches au détriment de 30% les plus pauvres. Et donc, toutes les mesures, par exemple, la question de la taxation sur les bénéfices des entreprises du CAC 40, l'indexation des salaires sur les prix, les augmentations salariales, même sur la question de la réforme des retraites, on voit bien qu'en fait, ils ont beaucoup pataugé et on s'aperçoit que leur projet, à certains égards, va même plus loin encore que le projet de cette droite brutale et violente qui est la Macronie. La question de l'ISF, on voit bien aussi, hein, ils sont contre la restauration, le rétablissement de l'ISF. Eux-mêmes veulent encore une politique fiscale qui favorise davantage les plus riches. Donc je pense que même à cet égard, voilà, y a une escroquerie absolument fondamentale à considérer que leur politique serait sociale, y compris...
Je ne sais pas que ça supposerait une amélioration de la condition. Je pense que c'est évidemment illusoire, mais j'ai l'impression que ce qu'ils proposent et ce qui peut avoir du crédit pour un certain nombre de membres des classes populaires ou du salariat, c'est que de toute façon, les riches et les puissants sont intouchables.
Oui, c'est ça.
Donc peut-être que ce serait bien de leur prendre de l'argent, etc. Mais de toute façon, on ne peut pas parce qu'ils échappent à l'impôt et de toute façon, ils sont trop forts. Et donc, prenons à ceux qui, peut-être, n'ont pas grand-chose, mais qui ont déjà trop, parce qu'ils ne devraient avoir rien, parce qu'ils ne sont pas d'ici. Plus, ce sont des fauteurs de troubles, ce sont des délinquants, en tout cas, il y a beaucoup de délinquants parmi eux, de potentiels terroristes, toujours en processus de radicalisation contre la France, contre nos valeurs, contre notre tradition. Donc voilà, je pense qu'il y a un discours social, mais qui est en fait un discours racial ou ethno-racial et qui fait office en quelque sorte de discours social pour le FN. Alors évidemment, au pouvoir, ça ne donnerait rien de positif pour les classes populaires, pour les travailleurs et les travailleuses, en particulier évidemment pour ceux et celles qui seraient la cible de ces politiques xénophobes et racistes, mais même pour ceux et celles qui peuvent imaginer que leur situation s'améliorerait en cas d'arrivée au pouvoir de l'extrême droite.
Absolument. Et c'est vrai que, comme l'a montré Félicien Faury dans son livre important des électeurs ordinaires, ce discours, il fonctionne auprès d'une grande partie de l'électorat du RN. C'est-à-dire, il n'y a pas d'alternative au sens où, en fait, rien ne va véritablement changer en termes de structuration générale des rapports de force, des rapports sociaux, de richesse. Donc, en effet, les plus riches sont inaccessibles et on n'y touchera pas. En revanche, il faut toucher à qui est encore plus modeste que soi, encore plus dans la détresse, encore plus dans la difficulté que soi. Et avec ce qui est bien montré aussi par Benoît Coquart, l'idée que être de gauche désormais, c'est ça qui est la honte, c'est ça qui est honteux du point de vue d'une partie de l'électorat du RN, parce que la gauche défend les cassos, les cas sociaux, les assistés, comme tu le disais. Donc, mais à aucun moment, justement, le RN ne cherche à faire la démonstration du contraire sur la question de l'assistanat, c'est-à-dire, comme le fait une grande partie de la gauche, montrer que les véritables assistés sont justement les grandes entreprises qui touchent par différents biais des aides publiques considérables, des niches fiscale, l'évasion fiscale, une politique fiscale qui la favorise, etc. Bon, voilà, on sait que l'assistanat est vraiment de ce côté.
Un capitalisme sous perfusion. Il y a chaque année, dans le budget d'État, il me semble, 180 milliards qui partent en aide publique, directe ou indirecte, exonération de cotisations sociales, pour les entreprises notamment.
Donc ça, 180 milliards annuels, et ce, sans compter justement l'évasion et la fraude fiscale, qui est estimée à 80 à 100 milliards. Bon. Mais ça, jamais, jamais, le RN ne va sur ce terrain. Jamais. On peut dire aussi que, puisqu'il y a toujours ce discours de « on n'a pas essayer, etc. Le RN, du point de vue de son électorat, mais justement, un peu partout dans le monde, et tu l'as suffisamment bien montré, on essaye, et si on se reporte à ce qui se passe aussi bien en Hongrie qu'en Italie, en Argentine...
C'était ça, justement, que je voulais aborder.
Tu l'évoques dans
ton livre.
Oui, Mélanie, elle a une des premières mesures qu'elle a mise en œuvre, c'est justement de s'attaquer, y compris à une partie de son électorat populaire, en supprimant l'équivalent du RSA, enfin d'un revenu minimal qui est appelé en Italie revenu citoyen et qui plonge justement dans un désarroi extrême justement cette fraction des classes populaires parmi les plus pauvres et qui a pu se tourner vers elle pourtant en se faisant l'illusion que son sort allait changer par le biais de la xénophobie d'État.
Dans le livre, tu évoques aussi l'expérience finlandaise, puisque l'extrême droite y est au pouvoir en coalition. Parce que, de toute façon, c'est encore un truc qu'il faut rappeler à chaque fois, c'est que cette extrême droite qui se prétend anti-système, à chaque fois qu'elle gouverne, historiquement d'ailleurs, ou aujourd'hui, gouverne avec les franges de la droite conservatrice et libérale qui ont gouverné pendant des décennies au profit des plus puissants, des possédants, etc. Et c'est le cas aux Pays-Bas, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Finlande. On retrouve ces coalitions droite-extrême droite, où parfois l'extrême droite est la force force dominante, comme en Italie. Parfois, elle est en force, c'est une force plutôt subalterne. Mais qu'est-ce qui se passe justement en Finlande? Qu'est-ce que ça nous apprend potentiellement, la politique de l'extrême droite en Finlande?
Oui, ben c'est aussi une politique de régression sociale extrêmement brutale, qui a mené d'ailleurs à des mobilisations considérables il y a un peu plus d'un an, en février 2024, avec des grèves massives et des manifestations très imposantes qu'on n'avait quasiment jamais vues dans l'histoire sociale et politique du pays, mais qui s'est accompagnée ensuite par une répression, là aussi très brutale, antisyndicale. En fait, ce sont des mesures qui mettent en cause aussi bien les politiques sur les retraites, les politiques salariales, les politiques aussi de protection de la liberté de la presse, des mises en cause sur le droit du travail, notamment pour ce qui concerne les congés maladie. Enfin, autant d'attaques qu'on connaît bien, mais qui sont des attaques en règle, qui sont des attaques qui fonctionnent un peu au rouleau compresseur. Et il s'agit, mais comme partout, comme on le voit évidemment avec Orban, d'avancer, y compris par des manières de bâillonner la presse. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'en Finlande, c'est d'autant plus surprenant, et c'est une expérience qu'on connaît quand même moins bien que ce qui passe en Argentine, aux États-Unis, en Israël, en Inde ou justement en Italie et en Hongrie. C'est parce que voilà, souvent on a en tête que la Finlande est le pays où il fait bon vivre, le premier pays dans tous les classements sur le bien-être, le bonheur, etc. Alors que vraiment, c'est une politique antisociale absolument violente qui est mise en œuvre.
Tu développes beaucoup dans ton livre « Battre l'extrême droite » la question des responsabilités, notamment médiatiques, mais aussi de la Macronie. Est-ce qu'on peut revenir peut-être spécifiquement sur le rôle de la Macronie ? Macron a été élu en 2017 comme barrage à l'extrême droite. Il a même été élu cette année-là plutôt avec un discours relativement progressiste, pas sur le plan économique et social, mais sur le plan des libertés publiques, y compris avec une rhétorique... moins islamophobe, par exemple, que quelqu'un comme Manuel Valls, où il avait même pu donner des gages sur le fait qu'il respecterait la loi plutôt de 1905 et pas toute la dérive islamophobe qui s'est réclamée de la laïcité depuis notamment les années 2000. Et en fait, très vite, tout ça a disparu. Alors, quel regard, toi, tu portes sur justement la responsabilité de la Macronie, des macronistes, de Macron dans la progression de l'extrême droite ?
Oui, j'ai bien aimé croiser en manif une pancarte qui reprenait le slogan « Ascenseur pour les fachos ». Ça me paraît très juste. Disons que par rapport à ce qu'on vient de dire sur le pouvoir en coalition où l'extrême droite est présente, en fait, là, tout est prêt en termes de respectabilisation, de légitimation et de collaboration politique pour que cette coalition d'une droite extrême et de l'extrême droite se mette en place en France. En fait, tout est fait pour justement faire considérer que le RN est une force politique absolument comme une autre, qui n'est pas une force d'extrême droite, puisqu'il y a eu déjà cette idée d'arracher l'étiquette d'extrême droite au RN, et puis d'en faire la promotion systématique, y compris par des éléments de langage de type « Ah, mais oui, mais par exemple, Sébastien Chenu, le meilleur vice-président de l'Assemblée nationale qu'on puisse rêver, selon les termes de la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet. » Donc, et puis, ce qu'on voit aussi du côté, par exemple, du micro-parti d'Édouard Philippe Horizon, à dire « Voilà, mais en fait, ces histoires de rapports au RN, c'est des scrupules moraux très parisiens. Nous sommes prêts à gouverner avec le RN. » Et ça me paraît assez clair. Donc en effet, la Macronie est devenue non plus seulement un extrême centre, c'est une expression qu'on a les uns, les unes et les autres pas mal utilisée, en la reprenant notamment à Tariq Ali ou à Pierre Serna, ou à Alain Deneau, extrême centre, bon, qui signifie toujours que finalement le macronisme est un centre, certes extrême, qui est brutal dans ses mesures et sa politique de régression sociale, économique, idéologique, mais qui reste un centre. Et moi, c'est vrai que cette expression, elle me pose de plus en plus un problème, parce que c'est toujours cette idée que finalement, le centre, c'est la modération, et ça permet de rejeter les extrêmes et de les mettre dos à dos. Donc moi, je trouve que c'est vraiment une droite violente, une droite brutale et une droite qui a repris en fait toutes les thématiques de l'extrême droite jusqu'au terrain de l'islamophobie, avec la loi séparatisme qui a été extrêmement grave et dont on voit toutes les conséquences se déployer aujourd'hui à l'heure où on enregistre. Ce sont les attaques menées avec les menaces de dissolution d'Urgence Palestine et de la Jeune Garde antifasciste. Donc voilà, tout y est d'ailleurs dans ce projet de dissolution. D'un côté, une organisation antiraciste, antifasciste qui combat le fascisme, toutes les formes de fascisation à la racine. Et de l'autre côté, une organisation qui se bat pour la reconnaissance des droits du peuple palestinien et la reconnaissance d'une politique, du fait que la politique militaire menée à Gaza est une politique génocidaire par Israël. Donc tout est là dans cette concentration, justement, dans ces attaques. Et on voit que Retailleau a lui-même pris en quelque sorte ses consignes du côté de l'extrême droite avec le député du RN, Julien Odoul, qui est à la manœuvre lorsqu'il a pointé du doigt, justement, la supposée responsabilité de ces deux organisations. Donc voilà, les thématiques du RN ont été reprises et il s'est agi aussi pour la Macronie, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, par différentes formes de jeter le discrédit, d'abord et avant tout, sur cette partie de la gauche qui est véritablement offensive et qui se réclame de plus en plus de l'anticapitalisme, à savoir la France insoumise. Bon, et puis aussi, voilà, ce qui va être nommé l'extrême gauche. Et donc, c'est Macron lui-même qui a repris l'idée que la France insoumise était supposément un parti antisémite. Ce que je trouve une abjection vraiment presque sans nom. Donc, a repris vraiment cette rhétorique qui vient de l'extrême droite, ce qui est là aussi un retournement orwellien. Donc oui, la responsabilité, elle est absolument extrême. Et c'est une inversion totale. Enfin, ce sont des inversions accusatoires qui sont terribles.
Oui, il y a un retournement assez sidérant qui est qu'on va tenter de dissoudre la Jeune Garde antifasciste et l'Urgence Palestine, il me semble, à partir de textes qui ont été passés dans les années 30 pour dissoudre les ligues fascistes. Le CCIF, le Collectif contre l'islamophobie en France, avait été dissous il y a quelques années, là encore, à partir de ces textes qui avaient normalement servi à dissoudre des organisations racistes, antisémites, violemment autoritaires. Là, on a une sorte de concrétisation vraiment sidérante de ce grand retournement où on va, par exemple, le CCIF, si on lit les raisons pour lesquelles il a été dissous, on lui a reproché de, en pointant le fait qu'il y avait des discriminations systémiques contre les musulmans et notamment des discriminations d'État, de susciter en retour des discriminations, on ne sait pas contre qui d'ailleurs, de ce qu'on dit souvent de mettre des cibles dans le dos de gens qui sont accusés d'islamophobie. En fait, en gros, accuser de racisme certains, ce serait se rendre soi-même raciste, et discriminatoire, etc. Et donc, on peut vous dissoudre de la même manière pour la Jeune Garde antifasciste qui défend des mobilisations ou qui empêche des collectifs fascistes, des organisations fascistes d'agresser des gens dans la rue, notamment à Lyon, et qui se retrouve du coup sous la menace d'une dissolution.
Oui, c'est une loi de 1936, avant même l'élection du Front Populaire, mais en effet, qui prévoyait la dissolution de ligues pour ces motifs, donc de ligues fascistes pour ces motifs, donc tu l'as bien rappelé. Mais il me semble que justement, par exemple, voilà, en reprenant les trois grands piliers de l'extrême droite, la sécurité, l'islam et la submersion migratoire, et en promouvant des politiciens comme Darmanin ou Retailleau, enfin, les choses sont extrêmement claires quant à la porosité totale de ces politiques entre le macronisme et le Rassemblement national.
Alors peut-être pour avancer vers une conclusion de cet entretien, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que peut la gauche et les mouvements sociaux ? J'ai l'impression qu'on est dans un moment de forte démoralisation à gauche, de désorientation sur le plan un peu stratégique. Il y a eu un moment de revitalisation d'une certaine manière assez surprenant après la dissolution où on s'est un peu repris en main et où il y a une forme d'unité qui a quand même suscité beaucoup de mobilisation et de militantisme pour empêcher le RN d'arriver au pouvoir. Par ailleurs, articulé à des luttes sociales qui n'ont jamais cessé, notamment depuis 2016. Chaque année, il y a eu des grandes luttes. Alors, sur la loi travail en 2016, mais il y a eu un peu plus tard les Gilets jaunes, il y a eu des mobilisations écologistes importantes, féministes, antiracistes à l'été 2020. Évidemment, les mobilisations contre les réformes des retraites en 2019 et 2023. Mais sur le plan politique, il y a, j'ai l'impression, une espèce de désespoir vis-à-vis de la situation à gauche qui est très fragmentée, où il y a des divisions importantes, où il y a des batailles de lignes, par ailleurs, entre une ligne libéral, d'accompagnement libéral du capitalisme type François Hollande ou Glucksmann, et puis une ligne de rupture qui est davantage portée évidemment par la France insoumise. Comment on s'oriente dans une situation pareille, de ton point de vue ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette situation ? Est-ce qu'on peut espérer quelque chose de cette situation en France ?
C'est vrai qu'il y a un sentiment de sidération qui domine et je trouve qu'il est aussi entretenu mais médiatiquement, hein, parce que, voilà, il y a une sorte de fatalisme, étant donné la puissance des puissants, tout simplement. Les puissants sont puissants, ils disposent de l'argent et donc des médias, et donc ça, c'est évidemment le nerf de la guerre, et ça crée ce sentiment parfois de pétrification, de désespoir. Et en même temps, comme tu le dis, c'est parfaitement dialectique, parce que il y a beaucoup de formes de résistance, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mouvements antifascistes, antiracistes, anticapitalistes, qui promeuvent des alternatives réelles. Donc ça, je voudrais le souligner, parce que je tourne énormément dans le pays, en fait, dans des endroits vraiment très, très divers. Encore récemment, par exemple, dans le bassin minier, dans une commune du bassin minier qui est gangrénée par le vote RN, plus de 65% aux dernières élections législatives à Calonne-Ricouart. Et en fait, voilà, des collectifs importants, très tenaces, extrêmement courageux. Et voilà. Donc il me semble que, déjà, toutes ces initiatives, il faut les souligner. Il faudrait aussi des formes de fédération, enfin des formes de coordination de tous ces mouvements, parce qu'ils sont assez considérables. Et au niveau local, c'est vraiment une lutte de tous les instants. Je crois que dans le que faire, il y a, pour battre et combattre l'extrême droite, c'est déjà, oui, revenir, comme on a essayé de le faire, et le plus précisément possible, avec le plus de rigueur possible, pour convaincre aussi, tout simplement, des gens qui seraient tentés de voter RN. Enfin, je dis tout simplement, mais en réalité, la chose n'est pas simple, parce que le poids, justement, d'une forme d'irrationalité née de l'irrationalisme de la machine médiatique. Mais c'est vraiment déjà revenir sur ce qu'est ce programme et en quoi il est un programme de régression sociale. Ça, c'est une des premières choses. C'est vraiment d'analyser de très près ce que représente clairement le Rassemblement national.
Ce qui n'est pas forcément simplement une manière de se dire on va convaincre des électeurs du Front National de voter pour la gauche, c'est peut-être aussi d'empêcher d'autres segments de l'électorat de tomber basculer, dans l'escarcelle de l'extrême droite ou...
Au nom du on n'a pas encore essayé, etc. Bien sûr, parce que ça, c'est... Voilà, même si tout ne passe évidemment pas par les élections, mais là, c'est devenu tellement crucial et l'heure est tellement grave qu'il y a cette question aussi. Et puis, sans doute, voilà, la question des abstentionnistes, dont j'ai moi-même fait partie pendant longtemps. Voilà. Et donc, il y a cet enjeu électoral, mais qui va bien au-delà, justement, de la question des élections. Mais c'est vraiment faire la démonstration de ce qu'est cette extrême droite extrêmement violente et antisociale. La deuxième chose, c'est aussi réagir par rapport à cette machine de guerre que représentent les médias. Et en fait, ça ramène d'ailleurs à des projets qui étaient ceux du CNR, par exemple,
hein, le Conseil national de la Résistance,
qui disait très clairement qu'il fallait mettre les médias à l'abri des puissances de l'argent. Ça faisait partie du programme du CNR. Et il y a des possibilités extrêmement concrètes en termes de législation pour voilà, prendre des lois anti-concentration, pour réprimer très clairement et bien, de manière bien plus conséquente dans tous les sens du terme. Vraiment, il faut être conséquent en la matière que ce qui se fait actuellement pour tous les médias qui promeuvent et qui sont d'ailleurs condamnés pour incitation à la haine, notamment à la haine raciale, pour discrimination. Ces médias qui continuent de toucher des subventions et qui, quand ils sont frappés de peine d'amende, sont des amendes tellement ridicules qu'évidemment, ça n'atteint absolument pas leur capacité de nuisance délétère et mortifère. Je pense aussi qu'il faut réfléchir, pour ce qui concerne ces médias, à la constitution d'organisations fortes, démocratiques, un conseil de déontologie des médias, où participeraient aussi des usagers, en fait, une sorte d'auto-organisation et d'auto-gestion médiatique pour faire face à cette offensive qui est vraiment, évidemment, catastrophique. Le troisième aspect, c'est les solidarités dans notre camp. Et je pense que, quel que soit notre point de vue sur la gauche actuelle et singulièrement la force politique qui est la cible de toutes les attaques, comme j'ai essayé de le dire de manière un peu distillée tout au long de cette discussion sur la façon dont la France insoumise est en sortie de l'arc républicain. Ça, c'est ce que la Macronie a dit très, très rapidement. On peut se souvenir d'ailleurs des parmi les premiers propos de Papendiaï quand il a été nommé ministre de l'Éducation nationale. C'était ça, c'était déjà prendre LFI pour cible et dire « Ah voilà, LFI est au bord de l'arc républicain, voire est en train d'en sortir ces accusations d'antisémitisme, etc. » Je pense qu'il faut vraiment faire front.
Contre la diabolisation de la gauche, en particulier de la France Insoumise.
Voilà, de la France Insoumise, être solidaire. Et moi, je trouve vraiment inadmissible du point de vue politique et aussi stratégique, mais éthique, politique, que beaucoup de responsables politiques d'organisations de gauche aient laissé faire la propagation de cette calomnie sur l'association entre LFI et antisémitisme. Et qu'il n'y ait pas eu toute la clarté mise pour répondre à cette calomnie. Et au contraire, pour des raisons purement politiciennes et de querelles de chapelle, et en fait d'ambition électorale et de partage du gâteau électoral, que justement, il y a eu une manière de contribuer finalement à répandre cette rumeur, à l'idée que oui, nécessairement, voilà, il y avait cette évidence d'un antisémitisme de gauche et singulièrement à la France insoumise. Je pense que c'est vraiment une objection politique qu'il faut à toute force contrer, et il est temps de se reprendre à cet égard et en effet de fédérer nos forces. On n'a plus le droit, on n'a plus le temps de querelles de chapelle comme on y assiste actuellement, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est aussi que ces médias font monter des figures qui sont, comme je pense très concrètement, bien sûr, à Fabien Roussel, ou même dans une autre mesure à François Ruffin. Il me semble que l'opération médiatique est assez claire. C'est la façon d'essayer de dégager des figures qui vont supposément contrer la force politique principale de gauche en France, qui est la France insoumise, en la critiquant, en étant extrêmement, en dissidence à son égard. Et ça, ce sont des opérations médiatiques qu'il faut aussi pouvoir contrer. Et enfin, bon, évidemment, il y a la question des luttes et des perspectives dont on se dote. Voilà. Et moi, j'entends souvent, y compris dans notre camp social et politique, que la force de l'extrême droite, c'est qu'elle aurait un projet et que nous n'en aurions pas. Enfin, je l'entends beaucoup, vraiment, de plus en plus, comme s'il y avait justement une espèce de pessimisme foncier sur l'idée que on a du mal à avoir un vrai projet. Et ça me surprend toujours, parce qu'il y a un vrai projet. Qui est un projet d'ailleurs très vaste, qui part de mesures élémentaires, de mesures d'urgence, voilà, des mesures immédiates que la gauche pourrait appliquer en prenant le pouvoir, y compris aussi bien sur le pouvoir d'achat, les retraites, sur les questions de justice, sur les questions évidemment sociales fondamentales. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ce sont des mesures qui petit à petit, pour certaines, mettent en cause radicalement la logique du capital. Et donc, le projet émancipateur, porté par cette gauche anticapitaliste qui est de plus en plus vaste, il est réel, il est puissant, il est porteur de véritables alternatives. Alors le problème, c'est que d'une part, évidemment, il n'est jamais médiatisé, et que d'autre part, beaucoup de ses forces ont un peu de mal à l'assumer complètement. Mais je pense que c'est là vraiment qu'est l'alternative et qu'est la solution politique, c'est de ne pas avoir peur de mettre en avant ce programme d'alternative radicale au capitalisme. Et je le dis d'autant plus tranquillement que, étant plongé justement dans les archives du Front Populaire de 1936-1937, depuis pas mal de temps, je mesure que toute force de gauche qui ne touche pas aux institutions d'une part, et d'autre part et surtout à l'organisation sociale et économique liée au capitalisme, ne peut que mener à un échec, vraiment un échec sanglant. Et donc, vraiment défendre ce programme me paraît vraiment une des choses les plus fondamentales aujourd'hui.
Eh bien, merci beaucoup, Ludivine Bantini. Merci de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. Un podcast, je le répète, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site Spectre, spectremedia.org. Je vous incite à soutenir Spectre, un projet militant, un site entièrement gratuit, sans pub, sans financement privé. N'hésitez pas à faire connaître ce site, à faire tourner les podcasts qui s'y trouvent dans vos réseaux, parmi vos amis, parmi vos collègues ou camarades, et si vous le pouvez, à soutenir aussi financièrement ce média, comme bien d'autres qui essayent de faire vivre d'autres idées, une critique de l'ordre social existant et cette alternative dont nous parlait Ludivine Bantini. À bientôt.
Povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. dentro de ti oscilar.
Spectre.